franceinter.com.
Aujourd'hui, ce lundi de la Pentecôte, après un week-end peut-être un peu pluvieux, les saints.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Avec aujourd'hui un sujet immense, un sujet de longue durée. Quand on lui demandait de définir la mort, Gomez de la Serna disait « La mort, c'est un lieu sans saint ». Eh bien, aujourd'hui, le sujet de la marche de l'histoire, le saint, une tentative d'histoire. Avec Marilyn Yalom, bonjour.
Bonjour.
Qui a longtemps enseigné à Stanford, où vous étiez comment dit-on, spécialisé dans l'histoire du genre, c'est-à-dire dans l'histoire de la construction culturelle de la notion de sexe.
C'est tout à fait ça. Mais dans le temps, quand je disais genre en France, on ne me comprenait pas. C'était tout autre chose. Maintenant, c'est un mot qui a pris, dans le sens que nous sommes tous des créatures de la culture. On dit en anglais... construit socialement.
Alors, quand on emploie le mot « saint », que comprend-on ? Votre livre, qui vient de paraître en traduction française chez Galad, est intitulé « Le saint, une histoire ». Alors, vous êtes une francophile professionnelle, dit votre mari, Marilyn Yalom. Vous savez que, automatiquement, dans l'esprit français, quand le mot « saint » est prononcé et qu'on est dans une assemblée supposée culturelle comme celle des auditeurs de France Inter, vient le souvenir du Tartuffe.
Serrez ma air avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous ?
Vous dire que...
Oh mon Dieu, je vous prie... Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées.
Robert Hirsch dans le rôle de Tartuffe. C'est une mise en scène de Jacques Charon. Et comme on était à la Comédie Française, le rôle féminin est tenu par Mademoiselle. C'est ainsi qu'on dit. Saignée. Alors vous avez deviné, Marilyn Yalom, nous sommes... En France, vous savez qu'on est très franco-français en France. On va beaucoup parler de la France, alors que votre livre traite du monde entier. Et puis, comme il faut choisir un segment dans cette longue durée, on va surtout parler de l'Europe occidentale et de la France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors nous sommes, on entend les Tartuffes, dans un monde chrétien. Ce monde chrétien a des origines, mais les représentations chrétiennes insistent sur les images de tendresse, non ? Qui sont liés au saint.
Oui, tendresse, mais il y a toujours ce côté charnel. Quand on dit le mot saint, le côté érotique. Et en plus, pour les Français, je dirais que la poitrine garde non seulement des souvenirs érotiques, mais aussi des souvenirs politiques. Nous allons en parler.
Mais commençons par le monde chrétien. Imaginons que nous sommes des hommes de la fin du Moyen-Âge. Le premier plaisir érotique de l'homme, c'est la vision, dites-vous. Une exposition à Caen, il y a de cela 25 ans.
Pour tout savoir sur le téton, le petit, le gros, le ferme, le mou, il y a bien entendu la plage. Aux timides, aux pudiques, je conseillerais plutôt le musée de Caen, Calvados, où chacun pourra se réjouir l'œil en gardant bonne conscience et avec la bénédiction de la religion. Le plus piquant est qu'il s'agit d'images édifiantes pour illustrer dans les églises la plus haute des vertus, la charité. Mais que dire de l'autre symbole adopté également par l'église ? Le téton romain.
Il s'agit d'une légende romaine. Qui dit qu'un homme a été condamné à mourir de faim en prison. Il a été sauvé par sa fille qui, en cachette, lui donnait le lait.
Au début, le pinceau reste prudent. Le vieux papa ferme les yeux. Du bout des lèvres, il chipote le sein qui lui apporte la vie. Elle, bonne fille, fait ce qu'elle peut pour sauver les apparences de la pudeur. lève les yeux au ciel, pousse des soupirs à fendre l'âme. Mais le pinceau s'émancipe, le vieillard devient solide gaillard. Les yeux s'allument, les mains étreignent, la goulée est avalée avec gourmandise. Le rouge monte aux joues, nul doute que l'enfer sera vite pavé de ces bonnes intentions-là.
Compte rendu d'une exposition au musée des Beaux-Arts de Caen, c'était en juin 1986, journal télévisé d'Antenne 2, le journaliste Pierre Champetier est le conservateur, un des plus malins que nous ayons en France, dont on entrevoyait le témoignage Alain Tapie.
Au début, chez les Romains, cette histoire avait une fille et sa mère. Et à la longue, on l'avait changée à un père pour ajouter un côté hétérosexuel et même incestueux, si vous voulez. Ceci ajoute un côté érotique qui n'aurait pas été là si il ne s'agissait que de la fille et de sa mère. Et depuis, on a oublié que dans l'origine de cette histoire, c'était une mère. Et après l'incident qui s'est passé historiquement, dit-on, on a érigé un temple à la gloire de cette fille et de sa mère qui étaient en prison. Et on avait fait sortir la mère de la prison grâce à la charité de sa fille.
La charité, dans l'érotique chrétienne, dans le paysage de tendresse chrétienne qu'installe la Bible, le personnage dont le saint est le plus souvent découvert, vous allez nous dire à partir de quelle époque, Marilyn Yalom, c'est la Vierge.
Tout à fait. Ces tableaux que nous connaissons tous de la Vierge nourricière datent du XIVe siècle en Italie.
Pas avant.
Mais en Égypte, j'ai vu des images coptes qui datent du 4e, 5e et 6e siècle et qui sont basées plutôt sur l'image de la déesse Isis et son fils Horus. Alors, il y a ces intermédiaires-là et ces prototypes.
Ah, donnez votre sang. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. Le don de sang, c'est un don de vie.
Pour plus d'infos et savoir où donner, dondusang.net. Ceci est un message de l'Établissement français du sang.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présente, dans le cadre du festival Venise Vivaldi Versailles, les fêtes vénitiennes sur le Grand Canal, les 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet. Sur la musique des 4 saisons de Vivaldi, Groupe F a composé une fête nautique et pyrotechnique sur le Grand Canal. Une évocation moderne des féeries nautiques, très prisée par la cour, avec une parade de gondoles venue de toute l'Europe. Retrouvez les fêtes vénitiennes au château de Versailles, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Vous écoutez France Inter, il est 13h30 et il est donc l'heure de retrouver Jean Lebrun pour la marche de l'histoire.
Merci Claire Servageant. Aujourd'hui, ce lundi de la Pentecôte, après un week-end peut-être un peu pluvieux, les saints.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Avec aujourd'hui un sujet immense, un sujet de longue durée, quand on lui demandait de définir la mort, Gomez de la Serna disait « La mort, c'est un lieu sans saint ». Eh bien, aujourd'hui, le sujet de la marche de l'histoire, le saint, une tentative d'histoire, avec Marilyn Yalom, bonjour.
Bonjour.
Qui a longtemps enseigné à Stanford, où vous étiez comment dit-on, spécialisé dans l'histoire du genre, c'est-à-dire dans l'histoire de la construction culturelle de la notion de sexe.
C'est tout à fait ça. Mais dans le temps, quand je disais genre en France, on ne me comprenait pas. C'était tout autre chose. Maintenant, c'est un mot qui a pris, dans le sens que nous sommes tous des créatures de la culture. On dit en anglais construit socialement.
Alors, quand on emploie le mot saint, que comprend-on ? Votre livre, qui vient de paraître en traduction française chez Galab, est intitulé « Le saint ». Une histoire. Alors, vous êtes une francophile professionnelle, dit votre mari, Marilyn Yalom. Vous savez que, automatiquement, dans l'esprit français, quand le mot saint est prononcé et qu'on est dans une assemblée supposée culturelle, comme celle des auditeurs de France Inter, vient le souvenir du Tartuffe.
Terrez ma ère avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous ?
Vous dire que...
Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir.
Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées.
Robert Hirsch dans le rôle de Tartuffe. C'est une mise en scène de Jacques Charon. Et comme on était à la Comédie Française, le rôle féminin est tenu par Mademoiselle. C'est ainsi qu'on dit. Saignée. Alors vous avez deviné, Marilyn Yalom, nous sommes... En France, vous savez qu'on est très franco-français en France. On va beaucoup parler de la France, alors que votre livre traite du monde entier. Et puis, comme il faut choisir un segment dans cette longue durée, on va surtout parler de l'Europe occidentale et de la France depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors nous sommes, on entend les Tartuffes, dans un monde chrétien. Ce monde chrétien a des origines, mais les représentations chrétiennes insistent sur les images de tendresse, non ? Qui sont liés au saint.
Oui, tendresse, mais il y a toujours ce côté charnel. Quand on dit le mot saint, le côté érotique. Et en plus, pour les Français, je dirais que la poitrine garde non seulement des souvenirs érotiques, mais aussi des souvenirs politiques. Nous allons en parler.
Mais commençons par le monde chrétien. Imaginons que nous sommes des hommes de la fin du Moyen-Âge. Le premier plaisir érotique de l'homme, c'est la vision, dites-vous. Une exposition à Caen, il y a de cela 25 ans.
Pour tout savoir sur le téton, le petit, le gros, le ferme, le mou, il y a bien entendu la plage. Aux timides, aux pudiques, je conseillerais plutôt le musée de Caen, Calvados, où chacun pourra se réjouir l'œil en gardant bonne conscience et avec la bénédiction de la religion. Le plus piquant est qu'il s'agit d'images édifiantes pour illustrer dans les églises la plus haute des vertus, la charité. Mais que dire de l'autre symbole adopté également par l'église ? Le téton romain.
Il s'agit d'une légende romaine. Qui dit qu'un homme a été condamné à mourir de faim en prison. Il a été sauvé par sa fille qui, en cachette, lui donnait le lait.
Au début, le pinceau reste prudent. Le vieux papa ferme les yeux. Du bout des lèvres, il chipote le sein qui lui apporte la vie. Elle, bonne fille, fait ce qu'elle peut pour sauver les apparences de la pudeur. Lève les yeux au ciel, pousse des soupirs à fendre l'âme. Mais le pinceau s'émancipe, le vieillard devient solide gaillard, les yeux s'allument, les mains étreignent, la goulée est avalée avec gourmandise, le rouge monte aux joues, nul doute que l'enfer sera vite pavé de ces bonnes intentions-là.
Compte rendu d'une exposition au musée des Beaux-Arts de Caen, c'était en juin 1986, journal télévisé d'Antenne 2, le journaliste Pierre Champetier est le conservateur un des plus malins que nous ayons en France, dont on entrevoyait le témoignage à un tapis.
Au début, chez les Romains, cette histoire avait une fille et sa mère. Et à la longue, on l'avait changée à un père pour ajouter un côté hétérosexuel et même incestueux, si vous voulez. Ceci ajoute un côté érotique qui n'aurait pas été là s'il ne s'agissait que de la fille et de sa mère. Et depuis, on a oublié que dès dans l'origine de cette histoire, c'était une mère. Et après l'incident qui s'est passé historiquement, dit-on, on a érigé un temple à la gloire de cette fille et de sa mère qui étaient en prison. Et on avait fait sortir la mère de la prison grâce à la charité de sa fille.
La charité, dans l'érotique chrétienne, enfin, pardon, dans le paysage de tendresse chrétienne qu'installe la Bible, le personnage dont le saint est le plus souvent découvert, vous allez nous dire à partir de quelle époque, Marilyn Yalom, c'est la Vierge.
Tout à fait. Ces tableaux que nous connaissons tous de la Vierge nourricière datent du XIVe siècle en Italie.
Pas avant.
Mais en Égypte, j'ai vu des images coptes qui datent du 4e, 5e et 6e siècle et qui sont basées plutôt sur l'image de la déesse Isis et son fils Horus. Alors, il y a ces intermédiaires-là et ces prototypes-là, peut-être pour la Vierge Marie nourricière dans tous les pays européens.
À partir de ce moment-là, on peut dire que le christianisme est nourri à la fois du sang du Christ et du lait de la Vierge.
Oui, tout à fait. Ce sont les liquides les plus importantes, n'est-ce pas?
Alors, on comprend que vous observez les tableaux des églises, les reliques et les objets contenus dans les églises. Votre livre, Le Saint, une histoire, oui, s'intéresse beaucoup aux représentations, mais aussi aux représentations laïques qui, peu à peu, s'imposent. Seconde moitié du XVe siècle, vous accordez la plus haute importance à une figure de jeune femme qui n'est pas vierge, qui ressemble dans le tableau de Jean Fouquet à une vierge néanmoins, puisqu'elle n'a qu'un saint découvert, c'est Agnès Sorel.
C'est Agnès Sorel, tout à fait. Et là, c'est une image très osée, car elle est à la fois la Sainte Vierge et la maîtresse du roi Charles VII. Et en plus, l'image est plutôt érotique que sainte. Alors ça choque quand même. Ça, tout le monde connaît cette image, mais au XVe siècle, quand on l'avait créée, la Vierge de Melun, c'était peut-être un scandale.
Agnès Sorel, dites-vous, nous sommes incorrigiblement français, Sacha Guitry. Si Paris m'était compté.
Le roi Charles VII, qui avait sinistrement abandonné Jeanne d'Arc à son destin tragique, se sachant impopulaire, sombrait à présent dans le marasme et le remords. Mais une idée lui vint qui venait de Touraine. C'était Agnès Sorel, la dame de beauté, oui, de beauté sur Marne. Elle venait de là-bas pour lui dire deux mots, mais en particulier.
Sire, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez en réchapper qu'en donnant le mauvais exemple à vos sujets. Le bon exemple est mieux valu. Mais vous savez qu'à l'impossible, hélas, nul n'est tenu. Devenez donc pour votre peuple un modèle de dissipation, d'impudeur et de perversité même, s'il le fallait.
Elle est charmante.
Et voici quel est mon projet. Devenez amoureux. Follement amoureux. Sensuel, immoral. Et pour qu'enfin nul n'en l'ignore, ouvertement, Seigneur, accordez-moi des droits. Donnez-moi des châteaux, des bijoux et des rentes. Et vous verrez bientôt tous les Parisiens conquis par votre exemple. Amoureux de l'amour. Et libérez enfin de toute hypocrisie.
Blanches rondeurs aux contours délicieux. Les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, une physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Il y en a qui, pour garde, l'air étonné. D'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Oh, quel désir quand nos yeux les devinent. Oh, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des ponts. Et même des pointes, quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient.
D'une autre époque, mais incorrigiblement français, Villemetz et Christinet, Fifi, tout ça pour vous demander, parce que je suis un peu timide, Quelle était la forme des seins d'Agnès Sorel?
Oh, Agnès Sorel, elle avait une poitrine imposante. Et au Moyen-Âge, avant, on ne montrait dans l'image de la Vierge Marie un tout petit sein qui n'avait pas du tout l'air naturel. Ça ressemblait à une petite orange, tandis qu'Agnès Sorel, elle a une grande pomme plutôt comme sein. Et c'est tout autre chose que la Vierge nourricière du Moyen-Âge. Je la vois comme un personnage, une image intermédiaire entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et à la Renaissance, le saint devient nettement érotique et plus grand.
En tout cas, vous parlez comme Fifi, mais petite boule d'ivoire, oui. Au milieu de qui est assise une fraise ou une cerise, quand on te voit, il vient une envie dedans les mains de te tâter, de te dire. Toujours la comparaison avec la fraise, la cerise, la pomme.
Oui, c'est tout à fait l'image qui se présente, l'image du fruit qui vient à l'esprit de l'homme quand il regarde le sein de la femme.
C'est l'homme qui va contraindre la femme à partir de la fin du 15e à porter des corsets. Alors le corset, ça rejette les épaules en arrière, ça met les seins en avant et ça maximise le sein progressivement.
Oui, mais c'est peut-être pas l'homme qui a eu l'idée de contraindre la femme à porter le corset. Le corset remonte au Moyen-Âge et c'était une façon pour les femmes de soutenir leur sein et aussi de faire valoir le sein, ça c'est vrai. Et on portait le corset jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais c'était toujours une façon de faire remonter le sein.
Nous sommes ici vers 1760, la conversation que vous allez entendre est largement imaginée. On pense qu'elle a pu se tenir entre la favorite du roi, Madame de Pompadour, et le souverain, Louis XV, extrait de Thierry Binisty, Louis XV, le soleil noir.
Je me demande si Monsieur Rousseau n'a pas raison de vouloir libérer les femmes du corset. Comment les femmes acceptent-elles de se soumettre à pareille torture ?
C'est que pour les hommes, dit-on, la finesse de la taille, madame, la promesse des plaisirs les plus délicats.
Votre ami n'a-t-il pas proposé de débarrasser aussi les femmes de leurs jupons et corsages ?
Mais la pudeur, Louis.
Ève était nue jusqu'à l'invention de la honte.
Soit. Mais fermez les yeux.
Certainement pas.
Mais moi, je retenais le nom de Rousseau, non pas à cause de sa protestation contre le jupon et le corset, mais à cause du mouvement qu'il a lancé pour l'allaitement. Alors, il faut quand même qu'on parle de ça.
Oui, le 18e siècle, c'est le siècle qui a demandé aux femmes de cesser d'envoyer leurs enfants en nourrice. Et c'était grâce à Rousseau, avec le Suédois Linné, avec un Anglais, un médecin anglais qui s'appelle Cadogan. On a commencé à insister que les femmes reprennent le devoir.
Mais votre livre est préfacé par Elisabeth Badinter. On sait que cette polémique sur l'allaitement a repris aujourd'hui. On n'entend pas toujours des arguments extrêmement rationnels. Alors, au XVIIIe siècle, on nous expliquait que les bébés qui tétaient le sein de la nourrice pouvaient du coup comme ça recueillir les défauts de la famille et qu'il fallait peut-être pour l'unité familiale revenir au cercle intime.
Oui, et ça c'est le côté politique dont je parle dans mon livre, car on croyait qu'avec le lait de la mère, l'enfant allait imbiber, si vous voulez, les vertus civiques. Et la nourrice, on ne savait pas grand-chose. Elle avait un côté peut-être moins rigide, moins moral, moins rigoureux. Alors, il valait mieux que chaque mère allaite son propre enfant, selon la politique de cette période-là, qui a changé les choses pendant un certain moment.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le Saint, une histoire, c'est le titre du dernier livre de Marilyn Yalom aux éditions Galade. Le Saint, une histoire culturelle. Le Saint, une histoire politique. Alors, de même qu'il vaut mieux allaiter à domicile en famille pour garder l'unité familiale, il est bon aussi de faire de la poitrine une image de l'unité nationale.
Oui, je n'ai pas à vous le dire que la France a pris comme symbole national cette femme avec sa poitrine nue ou demi-nue qu'elle offre à tous ses citoyens. Et c'est l'essentiel de l'image que la nation s'incarne en forme féminine et qu'elle protège ses citoyens par cette façon nourricière. Ma foi, quand on regarde d'autres pays, on ne voit pas cette image. Elle est plutôt, on voit plutôt des seins couverts dans l'image britannique ou l'image américaine. Mais si vous voulez, la France est plus osée. Et le symbole de celle qui va devenir Marianne, elle commence par la Révolution française et puis elle continue par l'image de Delacroix, la liberté guidant le peuple. Et puis elle devient nationale, mais internationale par les billets d'argent.
Alors, incorrigiblement français, nous sommes très satisfaits de lire sous votre plume, Marilyn Yalom, que le billet de banque de 500 francs qui avait été édité avec la figure inspirée de Delacroix, la femme, la poitrine nue, jaillissant d'une barricade, était refusé dans un certain nombre de bureaux de change.
Oui, il paraît qu'au début, c'était vrai. Et surtout, je crois, en Turquie, à un certain moment. Mais on a fini par les accepter.
L'Allemagne est beaucoup plus prude. Vous avez cité l'Angleterre,
vrai,
les États-Unis, mais aussi, on pourrait le dire de l'Allemagne.
Et moi, je pense dans le temps que l'Angleterre était plus prude. Mais quand j'ai vu la couverture de mon livre sur le Saint, avec l'image choisie par les Anglais et reprise par les Français, c'est l'image assez provocante. Pour dire le moins.
On la trouvera sur notre site, mais dites-en davantage.
Oui, oui, c'est Marialom, mon nom tout simplement, oui. Marilyn Yalom, on le trouvera.
Oui, mais l'image que vous voulez décrire,
oui,
qu'est-ce
oui,
que c'est
oui. Alors, c'est une espèce de... elle s'appelle Annie Sprinkle et elle fait un ballet des seins. Et elle est en train de manipuler ses seins. Mais parmi toutes les images que j'ai mises dans le livre, c'est la seule, soi-disant, mi-pornographique. Voilà ce qu'on a choisi pour l'Angleterre et pour la France comme couverture. Je ne suis pas contre, mais ce sont des images qui répondent à la mentalité anglaise d'aujourd'hui.
Et quand les premières femmes se sont dévoilées sur les plages. Oui. Ce n'était pas en France, d'ailleurs.
Si,
si c'est en France.
C'était à Saint-Tropez.
Incorrigible français. ils sont aussi les meilleurs dans ce domaine. Reportage, nous sommes en 1979, dans le Languedoc-Roussillon.
La querelle des seins nus sur les plages rebondit, si j'ose dire. Il est vrai qu'en cette période de vacances, il y a de la place dans l'actualité pour développer ce genre de sujet. Cela fait toujours des photos alléchantes à la une des journaux ou dans les magazines. Cela dit, l'homme qui a relancé la querelle au nom de l'Association des juristes catholiques du Languedoc-Roussillon n'en démord pas. Il s'appelle Michel Pierchon et il est avocat à Montpellier. Il a expliqué sa position à Françoise Gaujour. Le premier de ses arguments, c'est interdit par la loi.
C'est interdit par l'article 330 du Code pénal qui réprime l'outrage public à la pudeur. Cet article est effectivement peu précis et la Cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt de, rendu en 1962 et en 1965, a bien confirmé que l'exhibition de seins nus était constitutive d'un outrage public à la pudeur. Jusqu'à présent, dans notre région, nous avions affaire à des plages familiales, type le Gros du Roi, Palavas, la Grande Motte peut-être un peu moins, et plages sur lesquelles les femmes n'exhibaient pas leurs seins. L'an dernier, quelques femmes très rares le faisaient. Cette année, ça a été, disons, le grand étalement. On se dit, cette année, les femmes exhibent leurs seins, et l'an prochain, elles exhiberont l'intégralité de leur corps.
Et 40 ans plus tard, Maître Pierchon, ici interrogé par Jérôme Ballet, serait bien déçu. Il n'y a plus d'outrage public à la pudeur. Le délit est nommé autrement, exhibition sexuelle. La dernière condamnation en la matière, à la Cour de cassation, en France, 1972.
C'est toujours outrage à la pudeur aux États-Unis. Ça, je le sais. Et on n'a pas le droit d'aller seins nus sur les plages américaines. Pourtant, en France, ça se fait. Ça se fait peut-être moins maintenant que dans les années 70, 80. Mais ça se fait en France, en Italie, en Espagne, dans les pays nordiques. Mais ça ne se fait pas aux États-Unis.
Je ne sais pas ce que vous en pensez très profondément, Marilyn Yalom, pour essayer de percer le mystère de votre réserve. Allons jusqu'au bout, jusqu'à un aboutissement. Là, nous ne sommes pas en France, nous sommes en Italie, nous ne sommes pas dans les années 70, nous sommes en 1987, et voici qu'une députée inattendue se manifeste sur les places de Rome.
À l'air et croupe généreusement offerte à la foule, la Cinciolina, la star du porno, élue députée radicale, n'est vraiment pas farouche avec ses admirateurs. Ce sera l'émeute sur la place Navone à Rome. On vient en foule tâter le député le plus sexy du pays. La plaisanterie aura failli mal tourner et la police a dû intervenir pour protéger la stripteaseuse. On touche, on s'approche, trop vite. Il faut dire que la belle faisait déjà rêver les téléspectateurs en leur souhaitant une bonne nuit, vêtue uniquement de son charme et d'un diadème. La Cinciolina, dont les deux chevaux de bataille durant cette élection ont été la censure et le nucléaire, selon elle qualifiée de pornographique, avait précédemment comme slogan « Je suis une exhibitionniste ». Un exhibitionniste, en tout cas, qui fait le bonheur des mâles italiens qui n'en reviennent pas.
On sent, journal télévisé de France 2, 87, les réserves de la journaliste Dominique Thor. Et vous-même, je me demande si vous approuvez ce mélange de politique et de pornographie.
Écoutez, les Italiens l'ont élue. Et elle est restée au gouvernement pendant...
Enfin, au Parlement
au
européen.
Parlement. Oui, au Parlement.
Vous dites dans votre livre qu'il est resté jusqu'en 93, c'est elle qui a démissionné d'elle-même.
Oui. Bon, alors, c'est de la blague, quoi, si vous voulez. Je ne suis pas pour une femme qui soit élue de cette façon-là. Mais les Italiens l'ont bien voulu et... vous savez, j'ai des sentiments très mixtes à cet égard.
Les Italiens l'ont élu, mais manipulé aussi peut-être par les médias que le parti radical qu'il avait choisi manipulait lui-même. Au fond, à qui appartiennent les seins? C'est la question récurrente que vous posez tout au long de votre enquête, Marilyn Yalom. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu'actuellement, ils appartiennent et aux médias et aux industriels, ceux des sous-vêtements et de la lingerie, au système économique.
Ah, ça c'est vrai, mais le problème pour les femmes, c'est de reprendre nos seins, si vous voulez, et de les reprendre des mains des hommes, des médias, et d'avoir un vrai choix de ce qu'on voudrait faire avec nos seins à nous. Car il est trop facile de subir l'influence, comme vous le dites, des médias, des médecins même, des prêtres dans le temps, des moralistes et bien sûr des bébés. Quand même, les bébés, ils ont le droit.
Alors reprenons nos seins, c'est la leçon de votre enquête. Sauvons les seins, sauvons-les des médecins aussi. Vous dites
avec l'aide des médecins,
vous dites
dirais.
Que le cancer du sein n'a jamais été aussi important, sans qu'on sache d'ailleurs vraiment pourquoi.
Oui, la médecine en ce moment nous aide à préserver nos seins. Et grâce aux nouvelles découvertes, le sein est moins une menace qu'il était dans le temps, même il y a 20 ans, il y a 15 ans, la menace du cancer du sein était énorme. Et il est devenu, cette menace est devenue moins impressionnante que dans le temps.
Vous avez failli dire que le cancer du sein était une menace, mais que le sein était une menace. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent ainsi, que le sein est une menace.
Oui, il y a toute une histoire là-dedans, car pour l'homme, le sein est à la fois le paradis, mais aussi une tentation et une menace.
Ben, les seins, ça pour avoir plus d'affinité dans le corps, quoi.
De féminité, tu veux peut-être dire.
Voilà, voilà, de féminité. Parce que si on ressemblait tous aux garçons, où va le monde, quoi.
Ouais.
Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Les nichons, c'est les nichons.
Les seins, on dit seins. Merci.
Non, on, dit
non, on est sur une radio, on dit seins.
Mais la poitrine, c'est la poitrine, quoi. C'est ce qui nous apporte. Mais bon, moi, j'en ai pas. Hein. J'ai encore que 12 ans. Bah, j'attends que ça pousse.
Avec impatience?
Non, pas avec impatience, je m'en fous.
C'est important d'avoir des seins, non?
Non, c'est pas important. Des fois, dans des booms, il y a des meufs, enfin, qui, y en a une qui a mis du papier de toilette. Mais je peux vous dire, je vous assurer, que c'était la honte de sa vie. Parce que, elle, en courant, elle les a laissés tomber. Non, des fois je m'amuse, je mets des pommes dans. Je prends les soutifs à ma mère ou à ma sœur. Après, je mets des pommes dedans. Après, ça fait des seins.
Reportage de Caroline Cartier, France Inter 2000. Merci d'avoir, comme Caroline Cartier, Marie-Line Yalom, tenu un langage châtié et mesuré dans cette émission. Cette émission qui était réalisée par Jacques Sigal avec Thibaut Deschamps et Philippe Duclos. L'équipe de préparation, au premier rang, Franck Olivard, mais citons aussi Frédéric Martin et Clarisse Le Gardien.